1997. Une journée particulière. Où pouvait donc mon cœur s'enfuir loin de mon cœur? Où pouvais-je m'enfuir en me fuyant moi-même? Saint Augustin. Zéro. Cette fois, le réveil est plutôt doux, presque moelleux. Je reprends conscience au milieu des effluves de pain chaud. Lorsque j'ouvre les yeux, je suis allongé sur le ventre, le nez sur un carrelage rustique en terre cuite. J'ai moins mal aux articulations. Ma migraine est plus légère, mon souffle plus clair. Je me mets debout facilement et regarde autour de moi. Je distingue un pétrin mécanique, une façonneuse, une armoire de fermentation, un four à chariot dans lequel cuisent des viennoiseries, des sacs en toile de jute, des sachets en papier sur lesquels on peut lire « Au croissant chaud, French Bakery since 1974 ». J'époussette la farine sur ma veste et mon pantalon. Je me trouve dans le fournil d'une boulangerie artisanale. 1. J'entendis des voix et du mouvement à l'étage. À la hâte, je remplis un sac de croissants et de pain au chocolat avant de m'éclipser par un escalier maçonné qui me permit de rejoindre la rue. J'étais dans une impasse étroite et pavée, perpendiculaire au Bowery, à la limite entre Little Italy et Nolita. Le jour venait de se lever. Une lune argentée s'éclipsait entre les buildings. Dans la vitrine d'un soldeur, un panneau lumineux indiquait 6h25. À présent, j'avais mes rituels et j'essayais de m'y accrocher. Une pièce dans le distributeur de journaux, la découverte de la première page du New York Times. Elle était datée du 31 août 1997. 13 mois s'étaient écoulés depuis mon précédent voyage. J'avais beau m'y attendre, chaque fois le choc était dur à encaisser. Ouvrir les yeux et se prendre un an dans la gueule en un claquement de doigts. Ce matin, c'était la photo de la princesse Diana qui faisait la une. Diana killed in a car accident in Paris. Je hélais un taxi et profitais du trajet pour parcourir les premières lignes de l'article. Diana, princesse de Galles, est décédée cette nuit, peu après minuit, dans un accident de voiture sous un tunnel des bords de la Seine, à Paris. Plusieurs stations de radio françaises ont rapporté la réaction d'un des porte-parole de la famille royale britannique, exprimant sa colère et considérant qu'un tel accident était prévisible au vu du harcèlement que subissait la princesse de la part des paparazzi, quel que soit l'endroit où elle allait. Lorsque j'arrivais devant l'immeuble d'Amsterdam Avenue, j'étais bien décidé à tenir ma promesse. Si cette fois Lisa refusait de me voir, je n'insisterai plus jamais. Je vérifiais que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres, grimpais les escaliers et appuyais fermement sur la sonnette. Après quelques secondes, j'entendis des bruits de pas se rapprocher et je devinais que quelqu'un m'observait à travers l'œil de bœuf. Lorsque la porte grinça, j'étais prêt à tout accepter. Même un uppercut de tablette de chocolat ou un coup de rouleau à pâtisserie, bien que Lisa ne soit pas précisément le genre de femme à avoir un rouleau à pâtisserie chez elle. Ce fut elle qui m'ouvrit. Pendant un instant, son beau visage resta impassible. J'agitai alors mon sac en papier. Je ne savais pas si tu étais plutôt croissant ou pain au chocolat, donc je me suis permis de prendre les deux. Après quelques secondes de trouble, Lisa se jeta à mon cou. S'agrippant à moi, entourant ma taille de ses jambes, je lâchai mes viennoiseries, saisis ses hanches et claquai la porte avec mon pied. 2. J'avais la tête posée sur son ventre nu. Une heure s'était écoulée depuis mon arrivée dans l'appartement. Alors que nous reprenions notre souffle, Lisa baladait sa main sur ma nuque et dans mes cheveux. « Tu te souviens la dernière fois qu'on s'est parlé? Juste avant que tu disparaisses? Oui, tu t'apprêtais à me révéler quelque chose. Arthur, je crois que j'étais présente dans la cathédrale Saint-Patrick lorsque tu as fait ton premier voyage. » Je me redressai d'un bond et m'assis sur le matelas. « Tu es sérieuse ?» Elle remonta le drap sur sa poitrine. « C'était le 16 juillet 1992, n'est-ce pas ?» J'approuvai de la tête. « Je venais à peine d'emménager à New York, dans un appart bien crade de Mott Street. Ce jour-là, en fin d'après-midi, j'étais sorti me balader sur la 5e avenue avec ma colocataire. Une Cato de chez Cato, t'imagines même pas !» Elle se pencha pour attraper une bouteille d'eau minérale posée sur le parquet. À l'époque, moi, les églises, c'était pas tellement mon truc, mais juste en face de Saint-Patrick, il y avait une chouette boutique Victoria's Secret. Pendant que j'essayais de la lingerie, ma copine a insisté pour visiter la cathédrale, mais comme elle ne revenait pas, c'est moi qui suis allé la rejoindre. De loin, j'ai aperçu un attroupement autour du chœur. Juste au moment où je remontais la travée principale, deux flics ont fait irruption et se sont lancés à la poursuite d'un type seulement vêtu d'un caleçon à pois roses. J'en suis certaine aujourd'hui. Ce type, c'était toi. J'étais abasourdi par cette révélation. Lisa, elle, semblait ravie. C'est dingue, non ? Fit-elle avec un large sourire. J'étais tellement impatiente de te raconter ça. C'est trop gros pour être une coïncidence, répondis-je. Évidemment que ce n'est pas une coïncidence. Je vais te dire ce que ça signifie. Que je fais moi aussi partie de ton histoire. Que c'est le phare qui nous a réunis, toi et moi, comme il a réuni Sullivan et Sarah.
Cette idée semblait l'enthousiasmer. Moi, elle me faisait peur. Sullivan t'a aussi raconté le tragique épilogue de son histoire.
Oui, mais nous briserons cette malédiction,
répondit-elle, très sûre d'elle. Soudain, je commençais à avoir des doutes. Et je me dis que Sullivan n'avait peut-être pas eu tort de m'adresser toutes ces mises en garde. Mais Lisa souleva le drap, offrant son corps à mon regard. Elle s'allongea et tendit les mains pour effleurer mon torse et m'attirer contre elle. Ses lèvres papillonnèrent sur ma poitrine et mon cou, ses doigts glissèrent le long de mon dos, épousant la courbe de mes vertèbres, me caressant les flancs, les fesses, m'invitant à la pénétrer de nouveau. Au moment où j'entrais en elle, tous les avertissements de Sullivan étaient loin derrière moi.
3. Sans que nous l'ayons évoqué, je compris que nous étions d'accord sur un point. Vivre au présent. Ne pas laisser la beauté de l'instant être contaminée par la lourdeur du passé ou l'incertitude de notre avenir. Toute autre occupation nous paraissant être une perte de temps, et Dieu sait que nous en manquions, la journée se résuma donc à faire la seule chose qui vaille, s'aimer. Accrochés l'un à l'autre, nous ne quittâmes guère le lit. 9h. Je préparais notre petit déjeuner. 2 tasses de café au lait, les excellentes viennoiseries chapardées au croissant chaud, des miettes sur les draps, du soleil dans nos œufs sunny side up. 10h. Lisa avait réuni tous ses CD sur son lit et me faisait écouter ses chansons préférées grâce à une mini chaîne hi-fi installée sur sa table de nuit. J'entendis ce jour-là, pour la première fois, le riff de guitare de Radiohead sur No Surprises, la reprise de Killing Me Softly par les Fugees, le refrain entêtant de Bittersweet Symphony. 11h. Découverte de séries télévisées du moment. Une mise en bouche gentillette avec Friends, 2 épisodes hilarants de Seinfeld et un d'Urgence qui me donna la sensation fascinante et nostalgique d'être au boulot. 14h. Je fis répéter à Lisa une pièce de théâtre qu'elle devait jouer prochainement au Lincoln Center. L'amour est une fumée de soupirs. Dégagé, c'est une flamme qui étincelle aux yeux des amants. Comprimé, c'est une mer qu'alimente leurs larmes. Roméo et Juliette, acte 1, scène 1. 16h. Sur l'étagère de la cuisine, je retrouvais avec émotion mon livre de recettes. Mon fidèle allié qui m'avait permis de réaliser, presque sans dommage, mon désormais fameux magret de canard au miel. Je demandai à Lisa ce qui lui ferait plaisir pour déjeuner, puis dans un effort surhumain pour m'extraire de notre cocon, je descendis acheter des provisions à l'épicerie du coin de la rue. De retour dans la cuisine, je me lançai dans la préparation de lasagnes gratinées à la bolognaise. Pour être honnête, je ne les réussis qu'à moitié, mais comme l'amour est aveugle, Lisa m'assura que c'était les meilleures lasagnes qu'elle eût mangées de toute sa vie. 18h. La baignoire en sabots était trop petite pour 2 personnes, mais collés l'un à l'autre, nous ne faisions qu'un. À la radio, Texas, Alanis Morissette et les Cranberries. Dans la vapeur d'un bain moussant, Lisa compulsait le dernier numéro de Vogue, tandis que je parcourais des vieux Newsweek et Time Magazine, picorant sans recul dans l'actualité des derniers mois un échantillon des obsessions et des héros de l'époque. Bill Gates, nouveau maître du monde, les inquiétudes à propos du réchauffement climatique, l'étrange et nouvel univers de l'Internet, la mort de Tupac Shakur dans une fusillade à Las Vegas, la réélection de Bill Clinton, les conséquences révolutionnaires de la puce Intel sur l'économie, le retour d'une forte croissance dans le pays, accompagné de toujours plus d'inégalités. 20h. L'heure des devoirs. J'avais préparé du thé vert, Lisa avait enfilé ma chemise. Couchés côte à côte dans le lit, armés d'un stylo, nous nous livrions chacun à des travaux différents. Pour elle, établir une liste autour de la symbolique du nombre 24 dans l'espoir un peu fou de percer l'énigme du phare. 24 heures dans une journée, 24 carats dans l'or pur,
24 images par seconde dans un film de cinéma, 24 guérisons du Christ dans la Bible, 24 éléments atomiques composant le corps humain. Pour moi, répondre à une sorte de questionnaire de Proust qu'elle m'avait concocté pour mieux me connaître. 23 heures. Situé à deux pâtés de maison de l'appartement, l'Empanada Papas était un bar à tapas bondé et bruyant, mais qui servait de fabuleux chaussons de viande cuits au four. Assis à une table, je regardais Lisa qui fendait la foule avec dans les deux mains deux bouteilles de Corona qu'elle était allée chercher au comptoir. Son sourire, sa grâce, son éclat de diamant. Pourquoi n'avais-je pas eu la chance de la rencontrer avant? Pourquoi n'avions-nous pas le droit de mener une vie normale? Sous la lumière tamisée, les reflets caramel du cuir de son perfecto se mêlaient à sa chevelure couleur de miel. Elle posa les bouteilles sur la table et vint s'asseoir à côté de moi. Pendant toute la journée, j'avais été fasciné que nos gestes s'accordent, que nos rires se complètent, que nos cerveaux fonctionnent au même carburant. Mais accrochée au mur, une horloge mexicaine en forme de tête de mort égrenait les secondes, me rappelant que l'heure du départ approchait. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher, à tout coup. C'est la loi. Surgis d'un lointain cours de français, les vers de Baudelaire ne m'avaient jamais paru aussi appropriés. Comment le destin pouvait-il être suffisamment cruel pour m'infliger ce châtiment? 5 heures du matin. La chambre baignait dans la lumière pâle du clair de lune. Coup d'œil désespéré au réveil, la peur au ventre, je me levais sans faire de bruit. Ma chemise, ma veste, mon pantalon, mes chaussures, mieux valait être paré au départ. Je sentis la présence de Lisa derrière moi. Je la croyais endormie, sa main sur mon ventre, ses baisers qui remontaient de mes épaules à ma nuque. « Je n'arrive pas à croire que tu vas vraiment partir », dit-elle en me poussant sur la chaise en osier de son petit bureau. Elle grimpa sur moi et se débarrassa de sa nuisette. Mes mains effleuraient les courbes de sa poitrine que le demi-jour découpait dans la pénombre bleutée. Ses doigts ébouriffaient mes cheveux. Elle chercha mes lèvres et souleva ses fesses pour s'empaler sur mon érection. Elle se cambra et remua dans un va-et-vient régulier. Cramponnée à mon torse, elle rejeta la tête en arrière, ondulant sur moi, les yeux clos, la bouche entrouverte. Mes doigts glissèrent de ses lèvres à ses seins. Et soudain, mes idées se brouillèrent. Je manquais d'air. Des picotements de plus en plus prononcés figèrent mes mouvements. Ma vision se dédoubla et les effluves redoutées de fleurs d'oranger me chatouillèrent les narines. Non, pas maintenant. Alors qu'elle me chevauchait sur un rythme de plus en plus rapide, j'agrippais ses hanches, essayant de me raccrocher à tout ce que je pouvais, à ses gémissements, à l'odeur poudrée de sa peau, n'importe quoi pour demeurer quelques minutes supplémentaires, ici et maintenant. Lisa accrocha mon regard. Je sentis son corps frémir. La vague de plaisir la secoua et déferla sur elle. Au moment de jouir, elle ouvrit la bouche pour crier mon nom. Mais je n'étais déjà plus là. Quel crime avais-je commis qui méritait d'être payé d'un prix si élevé? Quelle faute impardonnable fallait-il donc que j'expie?